Connais-tu l'Ayurveda? Si t'es en train de te dire l'Ayurveda quoi, c'est tout à fait normal. Quand j'ai entendu parler la première fois de l'Ayurveda, le mot m'a interpellé, je savais pas trop c'était quoi, mais j'avais vraiment envie de découvrir ce que c'est. La vie étant ce qu'elle est, elle a mis sur mon chemin une merveilleuse invitée que je te présente aujourd'hui, qui est devenue vraiment une personne précieuse dans ma vie. L'Ayurveda, ça permet de se connaître et de se reconnaître au quotidien pour être mieux dans notre peau, dans notre corps, dans notre tête. J'imagine que ça te tente toi aussi. Une femme que j'admire, Nicole Bordelot, disait « Le plus important, c'est pas tant la connaissance de soi, mais c'est de faire l'expérience de soi. » Et aujourd'hui, mon invitée nous propose de faire ça grâce à l'Ayurveda et on va découvrir son parcours inspirant et ses enseignements presque magiques. Mon nom est Mélissa Miron et j'anime M'entreprendre, le podcast qui inspire au mieux-être et qui invite à faire mieux. Ex-agent de voyage qui voulait mieux se connaître, je me suis inscrite à une formation de coaching pour apprendre à me gérer et devenir ma propre coach. Depuis 7 ans maintenant, je pratique ce que j'enseigne. Je suis la complice des entrepreneurs qui aspirent au succès avec impact et authenticité. Leadership, mindset, introspection, stratégie, connexion. Le but de ce podcast est de faciliter ton évolution, d'éclairer tes réflexions. Ensemble, on revient vers toi pour connecter à tes essentiels. Épisode solo ou en duo, je te donne rendez-vous pour ton moment de pleine confiance, car qui tu es fait toute la différence. Es-tu prêt? On commence à l'instant. Bienvenue à cet épisode de la série M'entreprendre, notre rendez-vous pour vivre et entreprendre avec intention. Aujourd'hui, on découvre l'Ayurveda comme approche de connaissance de soi et de gestion de notre mieux-être. Je te propose une discussion autour du parcours inspirant de mon invité et de comment elle a intégré l'Ayurveda à sa vie, à son entreprise, ainsi que comment on peut introduire l'Ayurveda, cette médecine indienne, avec des bases simples pour t'ouvrir à cette approche. Je vais te proposer de t'observer et de prendre soin de toi grâce à la science de vie. Notre itinéraire pour l'épisode va être en 3 temps aujourd'hui, avec d'abord une discussion inspirante et très instructive, des pistes concrètes pour intégrer l'Ayurveda à ta vie, et troisièmement, un beau concours pour te gâter grâce à l'Ayurveda et mon invité. Reste avec nous jusqu'à la fin, ça vaut la peine, je te le promets. Alors, mon invité aujourd'hui est Maryse Piché, conférencière, thérapeute ayurvédique et entrepreneur visionnaire. Sa mission est d'amener l'être humain à retrouver son équilibre dans sa globalité. Fondatrice de l'Académie Santé Ayurveda en 2018, elle enseigne aux thérapeutes de différentes disciplines qui sont reliées à la santé et au mieux-être comment intégrer cette magnifique science de la vie à leur pratique, l'Ayurveda. Toujours en évolution, sans cesse en apprentissage, Maryse se forme auprès des plus grands maîtres et elle crée des services, des produits, des projets, des espaces de croissance humaine absolument uniques. Dégageant une sérénité rayonnante et une bienveillance sincère, au contact de Maryse, on se sent déjà mieux. On se sent accueilli et reconnu. Maintenant, place à notre entrevue. Maryse, bienvenue sur le podcast.
Ben, merci, Mélissa, pour cette belle invitation. Je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui.
Yeah! Alors, pour mettre un peu nos auditeurs en contexte, on se connaît depuis quelques années quand même.
Oui.
Et on est tour à tour. Je trouve qu'on vit une belle danse ensemble parce
oui,
qu'on est tour
dit.
À tour. Tu es ma thérapeute, tu mm-hmm. m'apprends des choses, tu m'enseignes des choses. Tu viens me voir en coaching parfois pour
oui.
aligner des décisions, t'assurer d'être authentique.
Mm-hmm.
Et tu contribues aussi dans mes retraites. Tu as animé des ateliers. Donc, je trouve qu'on est dans une belle danse. Donc, c'était naturel de se rendre jusqu'à cet épisode podcast parce que l'Ayurveda, c'est vraiment quelque chose de majeur dans ma vie qui, pour moi, m'a amené énormément de prise de conscience. Et je crois vraiment, là, vraiment, vraiment que tu es la meilleure, non seulement pour en parler, mais pour nous partager comment toi, tu l'as découvert, tu l'as intégré, tu le vis. Alors, merci. Je sais déjà que tu vas tellement être généreuse dans ce que tu vas nous partager.
Bien, merci, Mélissa. Ça me fait vraiment plaisir de le partager. Puis je pense que quand on a des connaissances, qu'on se connecte à qui on est vraiment, le plus important, c'est de pouvoir le partager à plus de personnes. Puis depuis justement ta rencontre, là, ton côté de femme d'affaires, tout ça, fait que j'ai le goût de me connecter aussi à toi. J'ai le goût que tu m'enseignes, puis j'ai le goût de t'enseigner. Fait que c'est un super bel échange qu'on a ce matin. Vraiment, là, j'ai vraiment dans la gratitude.
Super. Bien, je vais y aller avec ma première question. Hein. On va se mettre en contexte, excusez. Donc, tu es massothérapeute depuis 1997. Donc, quand même, là, aguerrie.
OK. Ça me fait vieillir un peu, mais bon.
Non, tu as commencé très, très jeune.
C'est ça.
Tu as été propriétaire de deux centres de santé, à Rosemary et à Tremblant. Puis ensuite, tu as vécu un grand virage en 2014.
Oui.
Ce que j'aimerais, c'est que tu me parles un peu de ton parcours entrepreneurial et de thérapeute jusqu'à l'enseignante accompagnante ayurvédique que tu es aujourd'hui. Si tu avais à nous parler un peu de ton histoire, ton parcours, j'aimerais vraiment ça l'entendre dans tes mots à toi.
Oui. Bien, quand tu dis que j'ai commencé très jeune, oui, effectivement, je sortais du cégep, j'avais 19 ans, puis je me cherchais, comme toute jeune adulte cherche quoi faire, puis je voulais aller dans l'enseignement. Moi, depuis que j'étais petite, ce que j'aimais faire, c'était d'enseigner à mes amis. Peu importe la matière, c'était « j'ai quelque chose à te partager puis j'aimerais que tu écoutes ce que j'ai à te dire ». C'était ma passion. Ça, là, je pouvais passer des journées à enseigner toutes sortes de choses. Puis, quand je suis sortie du cégep, j'ai dit « je vais aller dans l'enseignement » puisque j'ai toujours aimé ça. Mais je n'avais pas vraiment de matière en particulier qui me passionnait. Donc, je me suis dit « peut-être au primaire ou avec les enfants en difficulté ». Puis, la vie a fait que au niveau de l'université, j'ai pas été choisie pour aller dans l'enseignement. Dans ces années-là, c'était très contingenté. Il fallait avoir des notes en haut de 85%. On passait des tests psychométriques. En tout cas, c'était assez complexe. Et au premier refus, je me suis posé la question. Est-ce que la vie veut que je fasse autre chose? Ou je persévère puis que je vais jusqu'au bout de mon rêve? Mais déjà là, j'avais cette sagesse-là de dire, il y a peut-être quelque chose d'autre qui va se présenter. Puis écoute, c'était vraiment dans l'intuition tout ça parce que j'ai pas vraiment eu de l'enseignement de spiritualité ou de... Mais c'était là, c'était présent. Puis j'ai fait, OK, je vais aller voir quelque chose qui me passionne au niveau de la santé sans avoir besoin de diplôme universitaire, puis de faire quelque chose qui me passionne, c'est de prendre soin des gens. C'est ça le but, hein, parce qu'enseigner, c'est prendre soin des gens aussi. Mais par la santé naturelle, on peut aussi prendre soin des gens. Puis je me suis dit, je vais aller naturopathe. Mmh. À l'époque, en 93, 94, j'étais dans les gens marginaux parce que dans mon cours, la moyenne d'âge était de 50 ans et plus. Puis moi, je sortais du cégep à 19 ans, donc c'était tous des gens qui étaient là pour justement refaire une deuxième vie, se recréer, faire quelque chose qui leur passionnait. Puis dans ces cours-là, on nous enseignait la massothérapie. On nous enseignait prendre soin de sa santé par l'alimentation, les plantes et tout. Mais moi, j'ai eu tout de suite la piqûre pour la massothérapie. Donc ça me disait, je veux prendre soin des gens par le corps. Toucher à l'âme, par le corps, aller chercher quelque chose de bien-être. Puis je ne m'étais jamais vraiment posé cette question-là, c'était quoi exactement la massothérapie? On n'en parlait pas beaucoup, c'était vraiment un luxe à ce moment-là de se faire masser, d'aller dans des centres de santé, c'était pas populaire comme aujourd'hui. Puis j'ai tout de suite visé mes études pour la massothérapie à Kiné-Concept qui était une des plus grandes écoles à Montréal. Et j'ai laissé de côté un peu la naturothérapie parce que moi, c'était pas nécessairement d'analyser les suppléments, les compléments alimentaires, tout ça, c'était passer par le corps et prendre soin de la personne au niveau de son stress. Puis en massothérapie, on a différentes disciplines, puis moi, ça a été tout de suite comment je peux passer par le corps pour aller faire un équilibre émotionnel. C'était ça qui me parlait. Donc, j'ai fait les études en shiatsu. Puis le shiatsu, on parle un petit peu comme l'acupuncture. On va aller rééquilibrer les canaux énergétiques dans le corps, circulatoires et tout, pour qu'il y ait une circulation fluide, puis aller chercher la cause. Pourquoi il y a un blocage? Pourquoi que ça ne circule pas bien dans le corps? Donc là, je me suis passionnée à faire ça pendant des années, qui était le shiatsu, puis après ça, aller voir au niveau de ma clientèle pourquoi il y avait toujours un problème qui se répétait, en passant par le massage musculaire quand même, parce que les gens, c'est ce qu'ils aimaient, mais en intégrant le shiatsu au niveau des massages. Ça a été mon départ.
Je trouve que t'as, tu sais, je parlais tantôt de ta sérénité qui rayonne, puis je te l'ai souvent dit, moi, quand j'arrive à ton contact, puis comme ce matin, il y a comme vraiment quelque chose qui se dépose. Est-ce que t'as l'impression que t'es comme une sage ou une vieille âme de façon naturelle? Parce que je me dis à 19 ans, se demander, est-ce que la vie veut m'amener ailleurs? De dire, OK, moi, je vais passer par le corps pour aider les gens à une époque où on n'était pas là du tout. Est-ce que tu as l'impression que tu avais comme une connaissance innée de tout ça?
Bien, aujourd'hui, je le réalise. À ce moment-là, je ne me posais pas la question. On ne parlait pas de ça. Je ne viens pas d'une famille qui était spirituelle, pas du tout. Par contre, ce que je remercie mes parents, c'est qu'ils m'ont jamais poussée à être ce que j'étais pas ou à vouloir que je sois une personne avec des hautes études, de performance. Donc, ils m'ont tout le temps laissée libre. Moi, à 17 ans déjà, j'étais en appartement, j'avais le goût de faire ma vie d'adulte. Fait que je pense que c'est peut-être ça qui m'a permis de découvrir qui j'étais. Puis sûrement qu'il y avait un côté de sagesse parce qu'on me souvent dit, ben t'as une vieille âme, petite même on me le disait.
OK.
Donc, c'était là, c'était présent. Mais aujourd'hui, avec le recul, puis je regarde tout ce qui s'est passé dans les dernières années, ben probablement que je suis ici pour une raison. Puis c'est ça, ça passe pas par la tête, hein, ça passe vraiment par le cœur.
Ça m'impressionne vraiment que très jeune comme ça, tu as suivi un peu ton intuition et ton élan vers la massothérapie, vers le corps. Je trouve ça beau tout ce que tu nous partages. Et là, il y a un moment où tu te dis, OK, de massothérapeute, je voudrais aussi être propriétaire de mes propres centres de santé. Parle-nous un peu de ça.
Oui. Ben, en fait, pour payer mes études en massothérapie, je devais quand même continuer à travailler parce qu'on sait que c'est des cours privés qui sont assez dispendieuses. Puis pendant que je travaillais, je me suis rendu compte que ben j'aimais pas nécessairement avoir un patron en arrière de moi qui me disait quoi faire, comment faire, malgré que j'étais une très bonne employée, là. Pendant mes études, on a décidé quand même, parce que ça a duré un bon 5 ans, mes études en massothérapie, je les ai faites à temps partiel pour pouvoir me permettre de payer tout ça. Puis, on a décidé de commencer déjà à fonder une famille. Donc, j'avais déjà ma première fille quand j'ai terminé mes études. J'étais enceinte de ma deuxième. Et la grande question, c'était, est-ce que j'ai envie d'avoir des horaires fixes avec un patron qui décide à quel moment je peux prendre mes vacances? À quel moment que je peux prendre une journée de congé pour prendre soin de mes enfants s'ils sont malades? Déjà, je me posais cette question-là. Ça a été évident quand j'ai commencé à pratiquer la massothérapie, même pas 3 mois après, que je voulais faire ma propre créativité, ma propre façon de faire, aligner ma personnalité jusqu'à au petit détail là, d'aromathérapie quand les gens entrent, l'expérience. J'avais envie de créer une expérience qui me ressemblait, qu'en travaillant pour quelqu'un d'autre, je ne pouvais pas amener nécessairement. Ça, c'était très fort. Puis, côté entrepreneur, je n'avais aucune idée là, si j'avais les aptitudes pour l'aide. J'avais personne dans ma famille en affaires, donc j'avais aucun modèle d'affaires. Mais je savais que je voulais faire les choses à ma façon. Ça, c'était clair. Puis, ma grande valeur, la première, c'était la liberté d'être, la liberté de faire des choix. Donc, même pas après 3 mois après l'école, sortie de l'école de massothérapie, enceinte, j'ai ouvert mon premier commerce à Rosemont.
Wow! Je trouve ça impressionnant parce que c'est encore un élan intérieur, hein, oui. On peut appeler ça comme ça, que tu as choisi premièrement d'écouter, puis de dire « OK, on s'en va vers ça », puis de t'en remettre à tes valeurs, tu sais, ta grande valeur de liberté, oui. Ton grand désir de faire les choses à ta façon et tout ça. Je trouve ça vraiment wow et vraiment inspirant.
Mm-hmm.
Et là, on est en quelle année quand tu ouvres à Rosemère?
Le 1er mai 1999.
Hey, wow! Qui est vraiment très rapide, comme tu le disais, après tes études en masso et tout. Et comment ça s'est passé, cette expérience-là?
Écoute, j'ai cherché un endroit à ce moment-là que je me disais, comment les gens peuvent avoir envie de prendre soin de leur santé dans un milieu où est-ce que ça le permet financièrement? Parce qu'on se rappelle qu'à ce moment-là, c'était vraiment un luxe. Le massage, ça ne faisait pas partie d'une médecine ou une façon d'être, une façon de prendre soin de sa santé. C'était un luxe. Donc, c'est les gens qui avaient de l'argent, qui pouvaient se permettre de recevoir des soins. Puis à Rosemère, c'était déjà très présent tout ce qui était ostéopathie, physiothérapie. Donc, il y avait un centre qui tournait autour de la santé. Fait que j'ai loué un espace comme ça, écoute, avec aucune expérience de c'est quoi un bail, c'est quoi les ententes. Puis moi, ce que je voulais, c'était offrir mes soins en massothérapie. Puis j'ai connu une fille à ce moment-là qu'on est allé suivre une formation pour soins visage et tout, qui elle était esthéticienne. Donc, on a jumelé nos deux expertises de massothérapie et esthétique ensemble. Et ça a fait boule de neige. Écoute, c'était... j'ai massé enceinte. Là. J'étais enceinte jusqu'à 6-7 mois de grossesse. Je faisais 30 massages par semaine. Parce qu'il y avait une forte demande, parce que fallait que je paye mon loyer. Pour toutes ces raisons-là, la vie a fait que, bon, ben là, tu n'as pas le choix de te trouver un employé. Là. À un moment donné, tu vas accoucher de cet enfant-là, il va falloir que tu t'en occupes. Donc là, j'ai commencé à afficher des postes, puis j'ai engagé des massothérapeutes. Quand je dis « des », au départ, c'était une, deux, puis au bout d'un an, c'était six. Parce que la demande était là, puis j'avais un grand besoin d'offrir à plus de gens possible cette approche-là de prendre soin de soi.
Je parlais d'entrée de jeu. J'ai choisi de te présenter comme entrepreneur visionnaire. C'est pas toi qui mets ça dans tes titres. Mais je trouve que ça démontre tellement bien ça. À une époque où le massage n'était même pas une habitude de vie, n'était pas couvert dans des assurances collectives, toi, tu avais cette vision-là de passer par ça pour rejoindre les gens, pour les accompagner, à être mieux dans leur corps, à aller à la source de ce qui accroche. Donc, c'est une belle preuve pour moi à quel point tu es visionnaire, puis tu l'es encore aujourd'hui, là.
Oui, puis la qualité aussi. La qualité, c'était déjà présent. Quand je dis que 6 massothérapeutes qui s'est joint à mon équipe, j'étais très, très sélective. C'est peut-être ça aussi qui a fait la réussite de mon entreprise. C'est chaque thérapeute qui travaillait pour moi devait avoir la même vision, les mêmes valeurs, puis je l'ai passé en entrevue 2 à 3 reprises. Je recevais des soins pour voir est-ce que c'est ce que mon client recherche, est-ce que c'est ce que je veux démontrer comme image. Puis ça a fait le succès de mon entreprise, je pense, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de bons commentaires. Les meilleurs massothérapeutes, c'est à Rosemère, c'est chez Évasion Santé, ça s'appelait Évasion Santé à l'époque. Puis ça, là, c'était tellement important pour moi, là, parce que ça démontrait que les gens qui travaillaient avec moi, c'était des gens passionnés.
Puis c'est ce qui a dû contribuer à l'ouverture du deuxième centre Évasion Santé à Tremblant à un moment donné.
Oui. Ben, en fait, à Rosemère, au bout de 2 ans, c'était déjà trop petit. Puis j'étais locataire. Donc, j'ai dit, pourquoi rester locataire si je peux devenir propriétaire? Donc, je passais souvent dans le vieux village de Rosemère, puis je regardais ce qui était présent, puis oups, s'est présenté une opportunité, une vieille maison centenaire qui avait toujours été utilisée comme une maison familiale. Je suis allée la visiter, puis le lendemain, j'ai fait une offre d'achat dessus. J'avais déjà la vision, je voyais tout ce qui s'en venait, et ça a été une mine d'or. Au niveau de la visibilité, au niveau de l'énergie. Avant même Tremblant, Évasion Santé a été à Rosemère pendant 12 ans avec une équipe de 18 massothérapeutes.
Wow! J'adore ça. Je trouve ça tellement inspirant parce que les gens qui nous écoutent voient à quel point tu es posée, tu es zen et à quel point tu es une entrepreneur inné, là, de façon naturelle, et je trouve que c'est un super mariage, ça, wow!
Mais je ne l'ai pas toujours eu inné, je vais te dire, quand j'ai passé de 6 à 18 employés, j'ai trouvé ça un gros défi. Parce que, si on se rappelle, au départ, moi, j'étais une thérapeute. J'étais une thérapeute qui voulait offrir du bien. Mais quand tu tombes à 18 employés, puis que tu veux le bien pour tous, ça peut devenir un gros défi. Puis là, c'est là où est-ce que j'avais beaucoup de questions à me poser, que je me suis posée pendant plusieurs années. Est-ce que je suis une thérapeute ou une gestionnaire? Est-ce que j'ai les qualités pour rester gestionnaire, faire grandir mon entreprise? Parce que j'étais toujours déchirée avec le bien-être de mes employés versus le bien-être de ma clientèle et mon bien-être. Puis pendant plusieurs années, on se rappelle, mes enfants, là j'étais rendue avec 2 jeunes filles, qui faisait pas ses nuits, que j'étais fatiguée, épuisée, puis j'arrivais au travail, j'avais une autre équipe, une autre famille à m'occuper, J'ai eu besoin d'aller chercher de l'aide. Et là, ben, à ce moment-là, c'est sûr que j'ai eu de l'aide au niveau de Subvention Québec qui donnait des subventions pour les jeunes entreprises. Donc, de tout faire dans l'ordre des choses avec des codes de déontologie. Donc, ça m'a vraiment aidé à remettre vraiment mon entreprise sur des critères vraiment plus professionnels parce que j'avais personne pour me baquer, pour me dire comment faire les choses. Mm. Oui, j'avais un côté entrepreneur, mais oui, j'ai été chercher des ressources, par contre, pour m'aider là-dedans. Puis encore aujourd'hui, même avec 25 ans d'expérience, j'ai encore besoin de ressources. Puis des gens comme toi, justement, qui sont là pour nous aider, nous coacher, mais nous emmener aussi des collaborations ou des gens qui peuvent nous soutenir parce qu'on c'est pas en étant seul qu'on peut réussir à avoir une entreprise qui est florissante.
Ben oui, puis en même temps, tu sais, ça n'a rien à voir avec, si je peux dire, l'entrepreneuriat inné ou non. C'est le grand défi d'avoir du recul sur soi-même, sur ses pratiques, c'est vraiment pas évident. Et en même temps aussi, l'espèce de gestion de croissance. Quand nous, on est dans la croissance, donc si tu te rends à 18 massothérapeutes, c'est qu'il y a une clientèle qui grandit là-dedans. Oui. C'est qu'il y a de la logistique autant dans l'espace, le centre, les horaires, tout ça. Et c'est là où d'avoir de l'appui pour un peu canaliser, choisir des priorités, toujours avec le recul que quelqu'un peut nous apporter. Mais à la base, ça part de toi, puis c'est grâce à ton esprit visionnaire. Fait que ça, l'un n'empêche pas l'autre.
Oui, c'est sûr. Puis quand tu me poses la question, qu'est-ce que fait émerger le deuxième centre à Tremblant? Ben, après 12 ans, j'avais l'impression de tourner en rond. J'avais déjà l'impression que j'avais donné le maximum de ce que je pouvais offrir à Rosevert parce que là, le bâtiment ne permettait pas d'avoir une plus grande équipe, ne permettait pas d'offrir plus, soit d'ateliers. Moi, je voulais vraiment développer les ateliers, les conférences, même l'hébergement. Ça me parlait beaucoup. J'allais suivre un cours en hôtellerie, offrir l'hébergement, voir. Mais mes enfants étaient encore jeunes là, pour ouvrir un gîte, une auberge quelconque. Je n'étais pas prête à ça. Puis là, ben, j'ai fait un rêve. Moi, je fais beaucoup de rêves. Puis c'est souvent le matin que les idées pop-up dans ma tête. Puis ça disait, ben, t'es prête à plus grand. T'es prête à plus grand, mais la signification de plus grand, je l'avais peut-être pas tout à fait compris. J'ai dit à mon mari, ben, moi, j'ai fait un rêve, puis je crois beaucoup à mes rêves. Puis ça me dit que je suis prête à plus grand. Donc, je vais ouvrir un plus gros centre.
T'es allée vraiment, comme on peut dire, au premier degré.
C'est littéralement. Degré du plus grand. Oui.
Puis c'est à peu près, si je me trompe pas, c'est à peu près à cette même époque, 2011, que tu as ton premier contact avec l'Ayurveda.
Oui.
Parle-nous de ça. Comment c'est arrivé dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, j'ai toujours aimé faire des lectures. Des lectures, que ce soit sur la. Tu sais, j'ai étudié en sciences humaines, j'adorais tout ce qui était la psychologie, la philosophie. Donc, mes lectures ont toujours continué dans le même sens, de connaître l'être humain à d'autres niveaux que le corps physique, au niveau de la spiritualité, les émotions reliées, tout ça. Puis, je suis tombée sur un livre d'Ayurveda, je ne connaissais même pas ce mot-là. Je n'avais jamais entendu parler de ça, c'était tout nouveau. Puis, quand j'ai commencé à lire, j'ai dit, oh mon Dieu, ça ressemble beaucoup à mon approche de Shiatsu. Parce que Shiatsu, c'est la médecine chinoise qui fait tous les liens avec les émotions, les saisons, le corps et tout. Puis, ah, je me reconnais là-dedans, ça me passionne. Puis, ça va encore plus loin que ce que j'ai appris dans ma massothérapie. Puis, j'ai envie d'en savoir plus. Et dans la même année, j'ai mon école kiné-concept qui, bon, on recevait des courriels, qui annonce qu'il y a un premier cours d'initiation en Ayurveda offert à kiné-concept, qui ne s'était jamais donné avant. Ben, moi, je m'inscris, c'est sûr, c'est évident. J'ai même pas réfléchi, je m'inscris dans les premières inscriptions des premiers cours qui se donnaient à kiné-concept. Avec Jonathan Raymond, qui est maintenant très connu en Ayurveda, là, mais ouais, c'était la première ouverture à l'Ayurveda.
Encore une belle synchronicité, puis une belle démonstration de ton côté visionnaire. Tu sais, t'étais dans les premiers, dans les pionniers au Québec.
Oui, je suis souvent dans les premières, moi, dans pas mal plusieurs choses, oui. Oui, ça me fait partie. Puis ça passe jamais par réfléchir ou non. Je le sais quand c'est pour moi, c'est automatique. Je m'inscris sans même. Des fois, je ne sais même pas le prix, je ne sais même pas les dates, puis j'envoie mon nom, puis c'est sûr que je veux le faire.
OK.
Puis c'est souvent des belles décisions. Ouais.
Donc là, parle-nous, tu découvres l'Ayurveda, tu te fais former là-dedans. Quels sont, si je peux dire, tes premiers moments, haha, que tu es comme ah, c'est donc bien merveilleux l'Ayurveda, ou je veux travailler avec ça, ou ça me parle. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu apprends à travers ça?
Bien, les premiers cours, c'est des cours d'initiation, à savoir qui on est. Donc, quand on prend les cours, c'est qu'on apprend à se connaître nous-mêmes avant de pouvoir connaître qu'est-ce que notre client a besoin. Puis ça, moi, ça a tout le temps été important pour moi, la croissance personnelle, à travers moi-même aussi. Puis là, ben, je me suis amusée là-dedans à découvrir, puis à comprendre bien des choses qui, des fois, étaient comme... Tu sais, tantôt, je parlais de... Est-ce que je suis une thérapeute ou je suis une gestionnaire? Mais pourquoi c'est les deux qui sont présents et pourquoi c'est si important que je conserve les deux? C'est parce qu'en Ayurveda, on travaille avec les éléments de la Terre, puis les éléments de la Terre, ben, on les a en nous. Et moi, j'ai autant de feu que j'ai d'eau. Donc, on va en parler peut-être un peu plus tard, mais en fait, j'ai les deux personnalités, deux énergies qui sont très présentes et je ne peux pas vivre un sans l'autre. Les deux doivent travailler ensemble. Donc, je vais toujours avoir mon côté thérapeute et mon côté visionnaire, entrepreneur. Il ne faut pas que je l'oublie parce que quand je l'oublie, je me sens comme s'il y avait un vide. Il y a quelque chose qui ne m'appartient plus. Puis pourtant, j'ai été, quand je te dis plusieurs années, là, au moins 5 ans me poser la question si je voulais demeurer en affaires ou pas, et si je voulais demeurer une thérapeute ou pas. Puis pourtant, j'avais pas à me poser la question. J'ai besoin des deux. Puis quand on apprend à se connaître, bien, c'est là qu'on comprend pourquoi c'est si important.
Bien, allons-y, plongeons dans l'Ayurveda. OK, jase-nous du principe des trois grandes énergies en Ayurveda, en nous, autour de nous. Ouais. Partage-nous ça en lien avec les éléments de la Terre. Je trouve que ça se place bien avec ce que tu viens de nous partager de toi.
Oui, puis j'aime ça rendre ça simple parce que l'Ayurveda, on utilise beaucoup les mots sanskrits. Hein. Le sanskrit, c'est une langue vibratoire, donc on ressent les mots, on les vit. C'est ça qu'on utilise en yoga pour faire les mantras parce que ça vient connecter à qu'est-ce qui a besoin d'être entendu. Ayur, ça veut dire la science. Ayur, ça veut dire la vie. Et Veda, ça veut dire la science. Donc, c'est la science de la vie, la science de longévité. Comment demeurer en santé le plus longtemps possible avec qui on est. Quand on parle des éléments, on va parler de l'eau, la terre, l'air, tout l'espace, le feu. Et ça, ben, on va jumeler deux de ces éléments-là pour en former un dosha. Le dosha, qu'on utilise, des mots qui vont revenir souvent, si vous avez jamais entendu parler d'Ayurveda, c'est les trois doshas, c'est Vata, Pitta et Kapha. Donc, c'est les trois termes qu'on utilise pour nommer qu'est-ce qui est présent dans ces énergies-là, dans ces éléments-là. Et on a des dominances en nous. Donc, on peut avoir une dominance feu, une dominance eau, une dominance terre, d'après notre génétique. Et en Ayurveda, bon, on va regarder deux choses. On va regarder qu'est-ce qui était présent à ta naissance. Donc, qu'est-ce que tes parents t'ont donné au niveau de ton bagage génétique? Parce que dans le bagage génétique, il y a tout au niveau de comment tes parents s'alimentaient, comment tes parents vivaient leurs émotions, c'était quoi, dans quel environnement ils vivaient. Tout ça va déterminer l'énergie qu'ils vont donner à l'enfant. Donc, on a tous une dominance à la naissance.
Donc, c'est un peu comme ce qui détermine un peu la dose de chacun des trois doshas qu'on a en dedans de nous, parce qu'on les a les trois, mais à différents degrés.
C'est ça.
OK.
Puis, on peut avoir une dominance, comme moi, j'ai les deux, tu sais, Vata et Pitta sont pratiquement égales. J'ai autant de besoins de créativité que j'ai besoin de prendre soin des gens. Donc, c'est, tu sais, dans les doshas, quand on dit oui, sur une échelle, ils sont différents, mais on a une empreinte, on appelle ça une empreinte de naissance. Ton feu à toi n'est pas égal à mon feu à moi. Puis c'est ça qui nous différencie beaucoup. Puis c'est ça qu'il faut apprendre à vivre avec. Quand on donne des recettes, des suggestions pour, mettons, Pitta ou Vata ou Kapha, ben toi, il va falloir que tu fasses tes propres expériences pour voir est-ce que c'est vraiment ça que mon corps a besoin. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'écoute de soi avec la connaissance et la sagesse de la Terre. Moi, c'est ce que je trouve merveilleux dans l'Ayurveda, c'est apprendre à se connaître, notre propre nature, pour être en harmonie avec la nature, donc tout ce qui nous entoure. Puis l'autre façon aussi de travailler avec l'Ayurveda, là, on parle beaucoup de génétique, on parle de notre énergie de naissance, mais aussi c'est qu'est-ce que tu vis chaque jour qui peut faire que tu peux te débalancer aussi. Parce que si tu n'es pas à l'écoute de tes besoins, si tu n'es pas à l'écoute de qu'est-ce que ton corps a besoin de rééquilibrer chaque jour, puis que tu te déséquilibres par des choix, encore une fois, on travaille toujours à tous les niveaux. Est-ce que ton alimentation est en cohérence avec qui tu es vraiment? Est-ce que ton travail est en cohérence avec ton énergie de naissance? Parce qu'à la base, on a déjà une empreinte. On a déjà, tout est placé pour qu'on évolue dans qui on est. Mais si on va se déséquilibrer par des mauvais choix, soit pour plaire aux parents, soit pour plaire aux conjoints, soit pour essayer de plaire à notre égo, ben, c'est là où ce que les déséquilibres se placent. Puis c'est des choix personnels qu'on fait qui ne sont pas toujours les nôtres ou qui ne sont pas toujours en cohérence avec qui on est, mais c'est aussi des choix alimentaires. Au niveau du sport, écoute, ça va chercher tous les niveaux. Et c'est ce que j'enseigne le plus, c'est apprendre à te connaître. Et après, moi, je vais t'aider à apprendre à te rééquilibrer avec qui tu es, toujours en cohérence avec les saisons aussi, parce que les saisons aussi font que constamment, on est dans le déséquilibre. Le matin, on commence une journée, si on a une pensée négative, si on écoute des choses, on va se déséquilibrer. Donc, on est constamment en dualité, je peux dire, avec les débalancements. Puis c'est avec l'écoute, comment on se ressent, comment on vit les choses, qu'on va rééquilibrer vraiment avec qui on est. Et quand je reçois des gens, ben c'est ce que je leur fais prendre conscience. Qui t'es? Maintenant que tu sais qui t'es, quel déséquilibre t'as emmené dans ta vie, s'il y en a? Des fois, on est en équilibre, on n'est pas toujours en déséquilibre, mais maintenant, comment on peut faire pour revenir à ta vraie version? Parce que ta vraie version, c'est qui t'es vraiment, puis c'est ça, faut qu'il te suive toute ta vie.
Moi, ce qui m'a particulièrement plu avec l'Ayurveda et qui a fait que j'ai vraiment adopté cette approche-là, autant pour la connaissance de qui je suis, mais aussi pour, justement, si je peux dire, l'expérience puis l'évolution au quotidien, c'est que c'est pas de te catégoriser. Tu sais, contrairement à certaines approches où on va dire, ben toi, t'es comme ça, fais ça, puis c'est supposé bien aller. Là, on est beaucoup plus dans voici, tu sais, de façon de naissance. Donc, moi, ce qui ressortait, c'est que j'avais beaucoup du dosha kapha de naissance, donc qui est l'énergie de la terre. Tu me corriges si je me trompe, hein?
Ouais.
En même temps, on va voir si je suis bonne élève. Et, mais c'est pas de dire, OK, ben toi, t'es plus kapha, donc oublie tout ce qui a trait à pitta et vata. Non.
Mais non, on l'a tous en soi.
Et c'est une notion d'harmoniser les trois énergies en nous.
Oui.
Et par rapport à ce qui se passe autour de nous.
Exactement, c'est bien dit.
Ça, pour moi, le fait que ça ait toute cette nuance et cette subtilité-là, ça me permet d'y croire. Parce que j'ai souvent dit, tu sais, toutes les approches qui vont scinder toute la population mondiale en 4, en 8, en 12, en 15 catégories, j'y crois pas parce que je trouve qu'on passe à côté de l'essentiel. L'essentiel est dans les nuances, dans les subtilités et dans l'évolution humaine. Parce que tu le disais, bon, en coaching, on va souvent parler de conditionnement ou de s'adapter à notre environnement. Donc, comme tu disais, si on a une énergie, donc kapha, qui est peut-être beaucoup plus dans la lenteur, dans la fluidité, dans l'enracinement, mais qu'on est dans une famille très pitta où c'est « non, non, let's go, action après action, toujours, toujours dans le feu de l'action », ben on va adhérer à ça tranquillement, mais au détriment de notre réelle santé globale, parce que c'est pas notre rythme naturel, c'est ça?
C'est ça. C'est exactement ça, oui. Puis, tu sais, c'est là qu'on comprend, quand on retrouve l'équilibre avec notre naturel à nous, ben les choses se placent par eux-mêmes, puis on fait des bons choix. Plus qu'on est dans le déséquilibre, plus qu'on est attiré vers les choses qui nous déséquilibrent davantage.
Oui, je me rappelle que tu m'avais partagé ça, puis ça m'avait vraiment fait tuer, ce qui est signe que c'est vrai. que naturellement, je faisais comme « Ah, ouh, ça fait mal d'entendre ça!
Ouais. »
Parce qu'effectivement, moi, j'ai beaucoup de kapha, puis quand je suis en déséquilibre, moi, souvent, mon déséquilibre arrive par le vata, donc il est l'énergie de l'air, tu pourras nous en reparler, mais j'ai tendance à y aller encore plus à fond dans le vata au lieu de me rééquilibrer. Donc, on en a moins parlé. Parle-nous un peu du vata, qui est l'air, c'est ça?
Oui, l'air et l'espace. Souvent, dans des lectures, ça va être écrit « éther », parce que c'est tout ce qui est éthérique. Vata, moi, la meilleure façon de le retenir, c'est que c'est le vent. Donc, c'est tout ce qui est mouvement, circulation, tout ça. Donc, quand il y a beaucoup d'idées dans notre tête, ça l'amène beaucoup de pensées continues. C'est ce qui fait que en trop grande quantité d'idées, en trop grande quantité, ça va amener de l'anxiété, ça va amener de l'insomnie parce que là, il y a trop de choses qui se passent et on oublie de se connecter à notre corps. On est trop dans notre tête. Et quand on est trop dans notre tête, ben on peut oublier de manger, on peut oublier ben des choses, la mémoire va faire défaut. Tu sais, quand on est en équilibre vata, c'est des gens très créatifs. Parce que là, ils vont être dans la création, ils vont avoir des bonnes idées, mais ils vont avoir aussi le temps de faire des arrêts. Puis c'est ça qui est important pour vata, c'est de prendre des arrêts de méditation, faire un peu la pause d'idées. Parce que c'est toujours le surplus qui amène les débalancements. Donc, quand il y en a trop, une surcharge de pensées, ben, à un moment donné, on n'est plus connecté à notre corps. Puis le corps, on est des êtres humains. On a besoin de se connecter à notre corps, on a besoin de se connecter à la terre. Et on va toujours aller à l'inverse. Qu'est-ce qui va vraiment équilibrer les doshas? C'est d'aller à l'inverse de ce qui est présent. Donc, s'il y a trop d'idées, on médite. Si on bouge trop, on relaxe. Les doshas ont des températures aussi. Vata, c'est beaucoup dans le vent. On parlait du vent, le froid. Donc, à chaque changement de saison, à chaque fois que la vie va trop vite, à chaque fois qu'on a des changements vraiment importants, que ce soit des déménagements, des voyages, on est dans le mouvement, on débalance Vata. Donc, c'est important après un voyage de prendre du calme. C'est important après un déménagement de prendre du calme. Vata a besoin de repos et de routine pour se remettre au moment présent et non toujours dans le futur. Donc, on dit que c'est le roi des doshas parce que si lui est débalancé, ben il va vraiment débalancer les autres. Puis on est dans un air Vata. La Terre est en air Vata. Tout va vite. La technologie
okay,
va vite.
Je vais t'arrêter parce que...
Oui.
Si je me rappelle à moi, il y a 3-4 ans, là je serais bien mêlée.
Oui, ça amène beaucoup de choses, beaucoup d'informations.
OK, fait que j'avais envie de donner l'exemple pour moi, là, très concret. Moi, j'ai beaucoup de kapha et j'ai du vata qui est présent. Comment ça se présente quand je suis en débalancement? C'est que mon vata, moi, c'est ce que j'appelais, que j'appelle encore mes bulles au cerveau.
Oui.
J'ai plein d'idées, puis là, ça virevolte, puis je me dis, je pourrais faire ça comme ça. Mm-hmm. Et quand tu disais « on est naturellement attiré vers ce qui nous déséquilibre encore plus
oui. »,
c'est que plus j'ai d'idées, plus j'ai le goût de rester dans cette vibe-là mm-hmm. qui m'amène un peu à m'étourdir, à être trop dans ma tête.
Mm-hmm.
Et de là va s'en suivre, donc peut-être un petit peu de difficulté à m'endormir le soir, ça va me créer un peu de stress, ça peut peut-être m'amener à revivre un peu d'anxiété parce que c'est trop présent, c'est juste trop dans ma tête, mais... inconsciemment, je suis toujours portée à rester là encore plus.
Ouais.
Moi, ce que j'ai réalisé, c'est que là, maintenant, quand j'identifie ça, ça demande vraiment un effort de mettre sur pause mes idées, de faire confiance que mec, je revienne, il va en avoir encore,
mm-hmm.
pour retourner dans mon kapha qui va être plus peut-être de m'asseoir dans mon fauteuil et de lire quelques minutes, peut-être d'aller marcher. Donc, d'aller un peu plus dans le mouvement puis dans la terre, c'est ce que j'ai identifié, que moi, marcher, ça me ground beaucoup.
Oui.
Ou de méditer, mm-hmm. c'est ce que tu oui. ce que tu partageais.
Oui.
À l'inverse...
Oui. La méditation peut se faire en mouvement, mais en mouvement lent.
Oui. Oui. À l'inverse, j'ai réalisé que comme moi, j'ai beaucoup de kapha, donc la terre, parfois une certaine lourdeur, lenteur, désir de beaucoup de sommeil, Mm-hmm. J'avais identifié que souvent dans ma vie, plus je dormais, plus j'avais besoin de sommeil.
Oui.
Plus je ressentais la fatigue. C'est un peu comme tu dis, hein? Plus oui. on débalance CAFA, plus on a le goût de rester là, puis oui. d'en avoir encore plus. Et je réalisais que souvent, quand j'avais un petit mou dans mes journées, naturellement, j'avais le goût, si je pouvais faire une sieste. Ou j'avais le goût d'aller m'écraser, tu sais. Mm-hmm. Donc, de rester dans la lourdeur. Et que quand j'arrive à faire l'effort, tu sais, la petite décision dans ma tête de « Oh non, tiens, on va aller marcher.
Mm-hmm. »«
Oh non, tiens, fais juste sortir de ton bureau, aère-toi, tu sais, d'ouvrir la porte, d'aller 2 minutes sur mon balcon, de revenir.
Mm-hmm. »
Il y a déjà un équilibre qui se refait. Est-ce que ça se peut que c'est, on va dire, aussi simple que ça?
C'est aussi simple que ça, j'allais dire, Mélissa, parce que déjà, tu prends conscience. C'est simplement ça, c'est de prendre conscience. Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur? Et qu'est-ce que je peux faire comme action pour revenir à l'essentiel? Revenir à qu'est-ce qui est important? Revenir au moment présent. Puis c'est ça, l'Ayurveda, c'est d'être à l'écoute. Parce que même si je te dis ton dosha dominant, même si je te dis ton déséquilibre, si tu ne prends pas conscience dans quel état tu te mets par tes décisions, par ton énergie qui veut te parler, mais qui c'est, tu vas toujours être en déséquilibre. Revenir à l'équilibre, c'est de prendre conscience, OK, ici, maintenant, je suis trop dans ma tête, ou ici, maintenant, je suis trop dans mon corps, parce qu'Alpha est beaucoup dans son corps, qu'est-ce que je peux faire comme petite action? Puis c'est ce qu'on va suggérer. On va suggérer aux gens... Comme CAFA, ben ça va être peut-être de se lever un peu plus tôt le matin. Ça sera peut-être juste ça la première action à faire. Une seule action peut amener des grands changements. Puis pour Vata, ça va être le contraire. Ça va être, ben au lieu de me coucher à 11h minuit la tête pleine, ben je vais fermer toutes mes choses avant 10h le soir. Je vais prendre un bain chaud, je vais me huiler avec une huile chaude, je vais prendre soin de moi parce que Vata oublie de prendre soin de lui. Ben dans une journée où il y a eu beaucoup, beaucoup de créativité et d'idées, c'est de prendre conscience, OK, là, j'ai atteint, je pense, le maximum que je pouvais aujourd'hui pour Vata dans ma créativité et je prends du recul, je prends une pause. Et tu le fais merveilleusement bien maintenant. Maintenant, tu es capable d'identifier, là, je m'en viens dans un déséquilibre. Qu'est-ce que je peux faire pour revenir? Parce qu'il n'y a pas personne qui est capable de demeurer en équilibre 24 heures sur 24. C'est impossible. On vit dans le mouvement.
Et on est affecté, comme tu le dis, par les énergies de notre environnement.
Oui.
Puis notre environnement, c'est autant la nature que oui. moi, je remarque beaucoup que c'est les gens.
Oui.
Certaines journées où, en coaching, par exemple, je vais être avec des gens qui sont très, très, très dans leur vata. Ah, mais ça, j'ai plein d'idées, je veux te partager mes idées, let's go, je veux faire ça. Naturellement, ça m'amène vers ça aussi, ça m'influence, tu sais, on peut le dire d'une autre façon, ça m'affecte, tu sais, on n'est pas on est perméable à notre environnement, donc même chose, certaines, moi je reprends beaucoup l'exemple, les deux fameuses premières semaines là, de notre confinement général.
Oui.
Ben, en coaching, il y avait beaucoup de lourdeur, donc les gens étaient accablés, se sentaient comme obligés d'être arrêtés. Donc, moi qui ai déjà beaucoup d'énergie CAFA, ça m'engluait beaucoup. Ou j'étais avec des gens qui étaient trop dans vouloir être dans le feu de l'action, quand là, il n'y a pas vraiment d'action à faire. Là, on est en confinement.
Oui, c'est souvent les premières réactions qui vont nous identifier. OK, cette personne-là, elle vit ça. Puis comment ça, moi, ça m'affecte autant? C'est parce qu'on est le miroir aussi des gens avec qui on est. Ça va refléter en nous ce qu'ils ont.
On est tous interreliés.
Oui, ben oui, exactement. Puis on est interreliés aussi aux saisons. Tu sais, on parlait tantôt.
Oui.
Bon, les gens qui ont beaucoup d'idées, créativité, ça bouge, ça m'affecte. Mais une journée qui vente beaucoup, tu remarqueras que dans ton corps, ça va être différent. Dans ta tête, ça va être différent. Puis si tu as une sensibilité vata parce que tu es présent, ben, tu vas être plus sensible que quelqu'un qui l'a moins en lui. Une autre personne va dire « Non, moi, le vent, ça ne m'affecte pas du tout. » Puis d'autres vont dire « Moi, j'ai des maux de tête, j'ai de la difficulté à me concentrer, ça ne va pas bien aujourd'hui. » Puis ce n'est pas tous des choses qui sont reliées à qu'est-ce qu'on a fait nécessairement. C'est qu'est-ce qui se passe autour de nous, avec les gens, mais aussi avec la nature.
Et Moi, l'exemple que je donne souvent, c'est que l'Ayurveda a comme mis des mots, mais aussi m'a donné le droit de ressentir ce que je ressentais.
Oui, c'est ça.
Parce que
oui.
Moi, j'ai une petite tendance migraineuse, tu sais. Puis on a cherché beaucoup de choses, puis qu'est-ce qu'il y en est. Puis depuis des années, mon mari me disait, dans les journées où il y a ce qu'on appelle une dépression météorologique, là, tu sais, c'est très lourd, puis il y a un gros changement vers soit une grosse pluie, une grosse humidité, je me tapais une migraine. Et mon chum me disait, ouais, toi, tu sais, c'est vraiment, c'est cette météo-là qui t'affecte. Et pour moi, c'était ridicule. J'ai hey, voyons donc, tu me niaises, voir que blablabla. Bla, bla. Et avec l'Ayurveda, tu sais, donc on en revient au kapha qui est très présent pour moi, la terre et l'eau. Donc, quand il y a une il y a l'humidité ou une espèce de grosse pluie qui s'en vient, un gros revirement drastique de température où il y a une lourdeur dans l'air, là, on sent le ciel gorgé. C'est comme si moi, je suis plus capable là, de prendre cette énergie-là d'enracinement ou de lourdeur qui s'en vient. C'est un peu ça.
Oui, c'est ça. Puis c'est ça la beauté. C'est ça la beauté d'être vivant. C'est de savoir que c'est là puis qu'on n'a pas toujours le contrôle sur qu'est-ce qui est présent. C'est de laisser aller. Moi, je le sais maintenant que s'il y a des journées, je suis affectée puis que c'est pas moi. C'est pas moi qui a fait que ça m'a affectée. J'ai bien mangé, j'avais des belles idées positives, j'ai médité, j'ai fait mon yoga, j'ai tout mis en harmonie et que je file pas bien, ben je sais qu'il y a quelque chose dans l'air, dans l'espace qui se passe. Puis des fois, ça peut même être les planètes. Il y a différentes sphères dans l'Ayurveda, mais on parle beaucoup d'astrologie védique aussi. On est relié à tout ce qui est dans l'espace aussi. Puis il y a des choses qu'on n'a pas le contrôle. Et c'est d'accepter. Accepter que c'est présent. Accepter que cette journée-là, je vais peut-être en faire moins. Je vais peut-être m'en mettre moins sur les épaules comme objectif, être moins performant parce que il y a quelque chose de présent et j'ai décidé que je prenais soin de moi. Donc, ça aussi, c'est important.
Puis j'ai envie de dire, tu sais, si quelqu'un nous écoute présentement puis qui est comme OK, ouais, pas sûr ou que ça fait beaucoup. Pour moi, au début, tu sais, quand on a commencé à se parler, on a commencé dans la relation de coaching. Donc, tu sais, j'apprenais l'Ayurveda à travers ce que tu me partageais pour tes projets que tu voulais mettre en place. Puis pour moi, la première étape, ça a vraiment été de juste dire, je vais observer ça, voir. C'est-tu vraiment vrai pour moi? Tu sais, avant même de, OK, changer ses actions, changer ses habitudes, vouloir se rééquilibrer, juste observer. Puis, il y a comme, si ça fait du sens pour toi, tu remarques que, ben oui, OK, tu sais, plus je suis, on va dire, dans la lourdeur, puis je me sens écrasée, ou plus j'ai le goût de rester. OK, plus je suis dans ma tête, dans mes idées, plus il y a du stress, puis peut-être un petit peu d'anxiété, d'insomnie qui arrive. Hein, c'est vrai. Je pense que la clé, c'est de juste développer, ou en tout cas, retrouver notre habitude de s'observer au quotidien.
Exactement. C'est le mot le plus important que tu viens de nommer. S'observer. S'observer, puis après, ben, poser les questions, faire des lectures, demander de l'aide. OK, maintenant, j'observe que quand je fais ça, il arrive telle chose. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? Puis prendre la décision de passer à l'action. Des petites actions. Mais c'est pas non plus dans l'inaction que les choses peuvent changer.
Non, puis en même temps, je suis très honnête, je connais un peu certaines personnes en Ayurveda, mais pour moi, c'est toi, tu sais. donc, je vais parler particulièrement de toi. Je trouve qu'il y a tellement une approche totalement en ouverture, de non-jugement avec l'Ayurveda. Ou est-ce que c'est pas... ben il faut absolument que tu changes ton alimentation ou que tu touches plus à ça ou que tu fasses ça. C'est beaucoup plus dans des habitudes que moi, je vais dire à ajuster ou à prendre conscience de ce que ça génère. Peut-être un autre exemple qu'on peut donner aux auditeurs, c'est moi et mon amour du café.
Oui!
Donc, le café, ça vient stimuler quoi? Mettons qu'on parle en termes de dosha. Qu'est-ce qui se passe quand on prend du café?
Bien, tout est accéléré. Hein? On va accélérer les battements du cœur, on va accélérer le système circulatoire, on va accélérer aussi beaucoup les pensées. Donc, pour Vata, c'est un stimulant qui n'a pas nécessairement besoin et ça va créer de l'anxiété.
Mm.
Pour Pitta a un système qui a besoin beaucoup de neutralité, beaucoup de calme. Il va aimer le café parce que c'est un goût qui donne, c'est corsé, ça amène de la chaleur, tout ce qui ne lui fait pas de bien, en fait. Et ça va vraiment lui donner aussi de l'impatience, ça va l'emmener dans un état qu'il n'a pas besoin d'être. Donc, il a besoin plus de tranquillité. Je te dirais, pour Kapha, il n'y a pas trop de contre-indications, mais toujours dans, encore une fois, jamais d'extrême. On ne veut jamais d'extrême. Donc, quand on parle de café, si c'est un à l'occasion, mais s'il y en a plusieurs, ce n'est pas nécessairement. C'est là où est-ce qu'on va. T'sais, moi, je ne dis pas non au café, je ne dis pas non au thé tant qu'on n'est pas dans l'extrême, tant qu'on n'est pas dans le d'en prendre trop. Mais Vata Pitta, ben, ça peut les amener en déséquilibre. C'est ça qui arrive.
Ben encore une fois, concrètement, tu sais, moi, ce que j'expérimente présentement, c'est que ayant beaucoup de kapha, et pour moi, c'est vraiment un apprivoisement les matins et le lever tôt. Ben comme je suis dans cette énergie kapha, mon café du matin, c'est un rituel qui vient activer, je pense, mon vata et mon pitta. Et après ça, j'entends ma journée. Et depuis très longtemps, j'ai identifié que moi, à partir de 4-5 heures l'après-midi, je ne peux plus boire de café.
Non, ça va t'empêcher de dormir, là, c'est sûr, ouais.
Exact, parce que moi, quand j'ai vécu de l'anxiété, c'était particulièrement le soir et la nuit. Donc déjà, je sais que mon vata et peut-être même mon pitta est très actif comme plus la journée avance. Mm-hmm. Donc là, c'est clair que c'est comme une fausse bonne idée de prendre du café. Mais au-delà de ça, ce que j'ai réalisé, c'est qu'au fil de la journée, si je suis possiblement en harmonie, donc que tout cohabite bien, j'y pense même pas à me refaire d'autres cafés.
Mm-hmm.
Mais si j'ai plein d'idées, je suis en création ou que je suis en train de développer un projet, je ne veux que du café. Je pourrais en prendre 5. Puis je trouve, je suis comme, OK, je vais aller me faire un café, puis je vais continuer. Je vais aller me faire un café, puis je vais continuer. Et je trouve que ça démontre ce que tu dis, qu'on est attiré dans le déséquilibre, tu sais. Là, c'est très, très, très fort, là, et j'ai juste le goût d'en prendre plus.
Oui.
Mais moi, je trouve ça vraiment, là, impressionnant.
Oui, puis tantôt, tu parlais de confinement, là, puis pendant le confinement, moi, c'est là que j'ai développé le besoin de boire du café puis de l'alcool.
Ah, ouais.
J'avais besoin, mais parce que probablement j'étais beaucoup, beaucoup dans mes pensées, je voulais avancer les choses, je voulais que ça avance. Puis après ça, je me suis dit, mais pourquoi ce besoin-là vient juste d'apparaître? Mm. Parce qu'il y a quelque chose qui se vit, puis que mon corps a besoin de s'identifier à quelque chose puis d'être dans la présence de ça. Mais encore là, un coup, je n'ai pris conscience. Ben, j'ai commencé à le remplacer par un thé matcha pour avoir, tu sais, c'est justement ça, c'est OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce besoin-là apparaît? Pourquoi il est constant? Puis comment je peux le tempérer avec autre chose sans l'arrêter complètement?
Oui, et je pense que probablement le fait que ta valeur fondamentale, c'est la liberté,
oui,
ça se transparaît dans ton approche.
Mm-hmm.
Parce que c'est clair que si, quand je t'avais partagé un peu ce que je vis, tu m'avais dit, ben, tu sais, Mélissa, toi, tu devrais pas boire de café.
Non, là, je pense que tu m'aurais pas
je serais jamais retournée te voir, tu sais.
C'est ça.
Tu sais, c'est sur ma carte d'affaires, c'est marqué Coffee Lover. Tu sais, on s'entend que je l'assume, là.
Ouais.
Mais que tu m'as plutôt, tu sais, dit, OK, observe ce que ça te fait, observe qu'est-ce qu'il y en est. Et après ça, quand je suis revenue en te partageant des choses, là, tu m'as suggéré, tu sais, si ma mémoire est bonne, on a parlé des gouttes d'huile essentielle de citron, on a parlé de chlorophylle, on a parlé. Donc, toujours dans l'équilibre, tu sais, et de faire des choix. Si je choisis, tu sais, de prendre un café, ben, quelle serait aussi l'action que je pourrais prendre au même moment pour équilibrer ce café-là qui va avoir un effet? Donc, moi, c'est ce que je prône, hein? Tu sais, m'entreprendre, c'est de se prendre en main, de prendre ses décisions. Donc, je trouve que grâce à l'Ayurveda, tu nous remets notre pouvoir, en fait.
Oui, je vous le remets. Puis quand tu parles de valeur première, de liberté, oui. Et deuxième valeur, j'ajouterais la douceur.
Tellement.
Je veux tellement passer par la douceur. Je veux tellement que les gens se donnent de la douceur que c'est pas drastiquement qu'on peut changer les choses. C'est par l'amour de soi, par faire des choix en douceur et aller tranquillement. Donc, c'est vraiment par là que je veux passer le message.
Écoute, je regarde l'heure défiler et je t'en avais déjà parlé, c'est confirmé, tu reviens sur le podcast, c'est sûr qu'on se reparle.
Ça me fait plaisir, oui.
Ce que j'aimerais qu'on aborde avant d'aller à notre concours, c'est ta ligne de produits à Yurma.
Oui.
Et ton tout nouveau centre à Bromont. Au moment où on se parle présentement, tu es en train de préparer vraiment l'ouverture officielle, la première retraite et tout.
Oui.
Donc, on va commencer par ton centre à Bromont. J'aimerais que tu me dises, qu'est-ce que tu as le goût de créer dans les prochains mois à Bromont? C'est quoi la vision avec ton centre?
À Bromont, ben j'ai tout le temps eu cette vision-là, puis elle est encore plus présente dans les dernières années, de se reconnecter à la nature. Je pense que ça passe par là. Je pense que la nature nous apprend beaucoup, nous amène beaucoup de bien-être, de tranquillité, d'écoute de soi. Donc, j'ai choisi un espace qui a vraiment un beau terrain, tout boisé avec vue sur la montagne, pour puis plein d'arbres, les arbres matures là, qui nous amènent tellement d'énergie positive. J'ai envie que les gens viennent ici se déposer. J'ai envie de prendre soin d'eux, de leur enseigner ce que je connais, qu'ils apprennent à se connaître. Puis, à travers les produits à Yurma, il y a un côté boutique. Donc, les gens peuvent, après, partir avec des rituels pour continuer à la maison ce qu'ils ont vécu ici, je leur ai suggéré. Puis les soins, parce que, bon, tu sais, je suis massothérapeute depuis plusieurs années, donc moi, je passe encore par les soins à base d'huile chaude qui sont choisis selon ce qui est à travailler, si c'est un déséquilibre présent ou si c'est juste de rester en équilibre avec la saison, et les ateliers. Moi, je suis une fille d'événements, j'adore créer des ateliers. Puis le 8 août, ben ça va être comme une ouverture officielle. On va avoir la méditation, du yoga en nature, puis un atelier sur apprendre à s'initier à l'Ayurveda. Donc, ça va être une journée complète. Puis c'est ça que je vais créer au moins une fois par mois, un événement avec différentes collaboratrices ou des gens qui veulent se joindre à moi pour emmener, parce que l'Ayurveda, c'est très, très complet. On va toucher à différentes choses, puis je vais toucher au corps, à l'âme, puis vraiment au cœur à travers ces événements.
Et ce que je trouve merveilleux, c'est que peut-être qu'on pourrait déjà demander aux auditeurs qu'est-ce qu'ils auraient envie de découvrir sur l'Ayurveda pour quand tu vas revenir.
Oui,
est-ce que c'est plus les rituels? Est-ce que c'est plus les saisons, les habitudes de vie, les types de soins, les produits qui existent, les huiles? Donc, n'hésitez pas à nous partager ça. Toutes les informations pour connecter avec Maryse vont être dans les notes de l'épisode et vont avoir été aussi envoyées par l'infolettre M'entreprendre si tu es inscrit. Donc, il y aura toutes les infos qui vont être là. Je pense que ce qui ressort aussi de notre discussion, c'est qu'on a tous les deux, hein, toi et moi, vraiment l'intégrité, le grand désir de pratiquer ce qu'on enseigne, tu sais, d'en faire vraiment notre réalité. Puis c'est ça qui nous réunit, hein? On se reconnaît là-dedans, puis on partage ce désir-là que ça passe d'abord par nous pour qu'on puisse encore ensuite de ça mieux le partager.
Oui, puis si je peux me permettre de rajouter, souvent on enseigne ce qu'on a plus besoin d'apprendre. Donc,
toujours.
Je pense que moi, depuis 2011, la vie m'a emmenée à me connecter à l'Ayurveda pour apprendre davantage à me connaître. Puis c'est pour ça que j'ai autant de plaisir à l'enseigner, parce qu'à chaque fois que je l'enseigne à moi-même. Ouais.
Tellement. Si je te demandais, parce que tu sais qu'avec M'entreprendre, hein, j'aime beaucoup avoir des actions très concrètes pour la vraie vie, là. Si je te demandais, qu'est-ce que tu suggérerais peut-être comme première observation à nos auditeurs? Mettons qu'ils se disaient, OK, je veux observer un peu tout ça, mais ce serait quoi la première chose qu'ils pourraient observer en eux-mêmes au quotidien pour commencer à jongler un petit peu vers l'Ayurveda?
Il y a tellement de choses. Moi, je commencerais par les pensées. Ouais. C'est quoi vos pensées qui reviennent? Parce qu'ils disent qu'on a quasiment 90% continuellement les mêmes pensées qui reviennent chaque jour.
Ouais.
Et ça peut être toxique, hein? Nos pensées, ils peuvent être toxiques, ils peuvent être... Fait que d'observer, est-ce que vous êtes dans le positif, dans les peurs, dans l'anxiété, dans les objectifs toujours plus grands, plus hauts, où vous êtes au moment présent? Ça serait la première observation parce que quand on équilibre nos pensées, ben par la suite, c'est plus facile de travailler au niveau du corps.
Donc, on pourrait dire que si on se sent relativement paisible ici maintenant, donc dans le moment présent, c'est qu'on est en équilibre.
Ben, on est toujours en déséquilibre, mais on est dans...
On tend vers l'équilibre dans cet instant.
Oui, on est dans l'écoute. Oui, d'être à l'écoute de soi, puis qu'est-ce qui se passe? Parce que moi-même, dans une même journée, je peux vivre différentes émotions.
Ben oui.
Mais je suis à l'écoute. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est d'être à l'écoute.
Donc, si je suis dans des pensées plus anxiogènes, des craintes ou des trop d'idées, ben je suis peut-être un petit peu en déséquilibre vers le Vata, c'est ça?
C'est ça. Quand je suis trop dans les objectifs de performance, d'en faire plus, c'est le Pitta. Et si je suis plus dans les pensées de peur, ben il y a différentes peurs, mais je veux dire plus de recul, de pas trop vouloir aller vers les gens.
De me sentir paralysée.
Pas vouloir essayer des nouvelles choses, pas être dans l'action. Là, je suis plus dans le café.
Wow! Merci, merci tellement, Marie.
Mais ça me fait plaisir.
J'ai adoré la discussion. J'ai déjà hâte de te recevoir à nouveau.
Ça me fait plaisir de partager.
Ah, merci d'être là. Aimerais-tu gagner une carte cadeau de 100 $? Oui, oui. 100 $ échangeables pour l'expérience Ayurveda de ton choix, grâce à Maryse. En tout cas, moi, j'aimerais vraiment ça. Donc, le concours, ça se passe sur Instagram. Tous les détails vont être dans les notes de l'épisode et vont être aussi sous la publication concours de mon feed d'Instagram. Sur Instagram, tu me trouves avec le A commercial Mélissa Miron Coach. Donc, en participant au concours, tu pourrais gagner 100 $ que tu vas échanger contre l'une des trois expériences d'Ayurveda possibles grâce à Maryse. Soit sur des produits de ton choix de sa gamme Ayurma, soit sur sa formation en ligne d'introduction à l'Ayurveda science de la vie, ou encore pour aller vivre une expérience sur place à Bromont de soins avec Maryse. Donc, le gagnant va choisir son expérience et il aura la carte cadeau de 100 $ pour pouvoir faciliter son introduction vers l'Ayurveda. Rends-toi sur ma page Instagram, à commercial Mélissa Miron Coach, et dans les notes de l'épisode pour voir tous les détails du concours et faire rayonner l'épisode pour que plus de gens découvrent l'Ayurveda. Je te souhaite bonne chance. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a vraiment plu, qu'il t'a aidé, qu'il t'a partagé une nouvelle façon de te connaître et de t'observer. N'oublie pas de t'inscrire à l'infolettre M'entreprendre si ce n'est déjà fait pour tout savoir et avoir les références des épisodes. M'entreprendre, c'est la décision de revenir vers soi pour être notre priorité, pour devenir notre meilleure stratégie de succès. Alors, je t'invite à cultiver chaque jour ta pleine confiance, car qui tu es fait toute la différence. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur le podcast M'entreprendre. Merci d'être fidèle à l'écoute.